ce droit fondamental à l'avortement. Donc c'est vrai qu'il y a eu un changement. Je vous rappelle quand même que Simone Veil disait que l'avortement était toujours un échec, sinon un drame, qu'elle a souvent insisté là-dessus jusqu'à ce qu'elle soit faite, comment dire, l'égérie du planning familial et qu'elle-même se taise sur ce qu'elle pensait profondément sur la chose. Mais c'est vrai que le passage de la dépénalisation d'un acte à un droit fondamental récemment s'est passé presque inaperçu, et pourtant c'est un changement gravissime hein, du point de vue juridique. Donc c'est le droit à faire disparaître le plus faible, le plus désarmé. Et je me disais qu'il y avait un lien entre ce droit fondamental à l'avortement et le transhumanisme, c'est-à-dire le droit à avoir un enfant hyper performant, hein, donc parfait, donc il y aura de l'autre côté l'idée de fabriquer de l'humain. Mais je me dis en même temps que comme on va, le temps qu'on fabrique un humain, de toute façon on va en tuer davantage qui serait justement pas encore hyper performant, je me dis derrière cela il y a un leurre, c'est que si nous continuons comme ça, la République va être balayée, je dirais, faute de participants. Il y a une dénatalité radicale en Europe. Et donc, je voudrais faire un lien entre nos deux sujets, on pourrait dire. D'un côté, le transhumanisme, avec finalement la dénatalité qu'il induit. On ne fait plus d'enfants, mais on attend d'en faire, voilà, mais on élimine en attendant ceux qui seraient naîtraient normalement. Et puis, de l'autre côté, l'islamisme. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y a un leurre transhumaniste qui est en train de faire le lit de l'islam, simplement du point de vue démographique. C'est-à-dire, vous savez qu'il y avait un imam qui avait eu cette phrase très, très intéressante, qui disait par vos lois démocratiques, nous vous envahirons, et par nos lois islamiques, nous vous soumettrons. Donc la démocratie, c'est quand même la démographie. Au bout d'un moment, on ne pourra pas dire on ne vous accorde pas le droit de vote, etc. Bon. Alors, je voudrais venir sur un sujet qui fâche. Éric Zemmour, ça c'est le sujet qui fâche, Éric Zemmour a fait cette équation, hein, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs ensemble, avortement de masse égale immigration de masse. Les naissances, d'une certaine façon, qui manquent, sont compensées par une immigration des pays que nous appelons barbares. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est très intéressant. Nous sommes la civilisation, mais notre civilisation pour vivre a besoin de la fécondité des barbares. Il faudrait réfléchir un peu à ce qui se passe derrière ça, cette logique-là. Donc, et donc, en réalité, à la fin, ça aboutit forcément au fait que, comme je l'avais essayé de le dire dans le Figaro, finalement, la libération de la femme aboutit au triomphe de la burqa, parce que finalement les femmes en mini-jupe se reproduisent beaucoup moins que les autres et qu'elles finissent par disparaître tout simplement par un phénomène démographique, voyez, et par être remplacées par les femmes en burqa. Donc est-ce que tu serais d'accord avec cette idée que même, qui me semble quand même un raccourci, mais comment tu l'articulerais, l'avortement de masse, l'immigration de masse et finalement peut-être la disparition des valeurs de la République par ses valeurs elles-mêmes, c'est-à-dire, voilà.
Moi, je ne suis pas tellement surpris de cette équation. Je suis surpris simplement qu'elle ait été retrouvée aussi tard, parce que je me souviens, à l'époque de Jérôme Lejeune, lorsqu'il était à l'Académie des sciences morales et politiques, il avait d'illustres confrères, qui étaient des gens comme Pierre Chonu, Jean Foyer, Forastier, et ils avaient cette réflexion d'ensemble, et je dirais transdisciplinaire, sur la question de l'avortement. Jean Foyer ayant été garde des Sceaux, Chonu étant un historien très porté sur la démographie, et je me souviens très bien qu'à l'époque, ils avaient déjà anticipé, surtout c'était un thème majeur chez Chonu, l'hiver démographique précipité par les lois sur l'avortement. Et ils disaient, on aura après des difficultés à payer les retraites, à trouver des actifs pour financer nos systèmes de sécurité sociale, mais ça fait 40 ans qu'ils ont dit ça, ils l'ont dit. Et c'était pas des demi-portions, mais ils n'ont pas été écoutés du tout. Et moi, ce qui me frappe, de voir à quel point il y a chez les gouvernants de l'époque contemporaine une absence totale de prise en compte de la durée, Alors, j'aime bien qu'on vit l'écrasement du temps avec les moyens de communication, etc. Mais tout de même, le fait de savoir si nous sommes encore une puissance, enfin, raisonner au niveau du fonctionnement de l'État en termes de puissance, est-ce que nous sommes encore une puissance demain, une puissance, mais une puissance, qu'est-ce qu'une puissance si ce n'est pas une puissance démographique déjà ? Il n'est de richesse que d'hommes, enfin. Donc tout ça, c'était, on pouvait parfaitement l'anticiper, surtout que la démographie, c'est des courbes, on prolonge des courbes. On savait très bien depuis 40 ans qu'on aurait les difficultés qu'on a aujourd'hui. Enfin, en prolongeant les courbes, on pouvait le savoir. Et ça n'a jamais été... ça n'a jamais été pris en compte par ceux qui le disaient, pourtant en parlant d'une chaire qui était tout de même honorable, l'Institut de France, mais je l'ai entendu de la bouche de ces trois personnages que je viens de citer. Il y en avait d'autres. À l'époque, l'Académie des sciences morales et politiques était très réactionnaire, si je puis dire, au sens noble du terme. Mais ils avaient des visions qui étaient justes, qui n'ont pas été écoutées. Alors, à l'inverse, je crois que des personnalités comme Jacques Attali ont tout à fait justifié, et d'autres d'ailleurs, en disant ben, on voit bien que la démographie des pays développés se réduit, il faudra compenser par l'immigration, et l'immigration remplacera, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Et derrière, il y a incontestablement une question aussi d'identité. On voit bien les difficultés, les achoppements qu'on a sur la question d'identité, que certains veulent traiter, que d'autres ne veulent pas traiter. En fait, en réalité, voilà, ceux qui arrivent ne sont pas porteurs des mêmes valeurs, et tout ça n'est plus réductible si on évacue les causes premières, au fond. Voilà, si on évacue les causes premières, si on n'y croit plus, si on a un futur sans avenir, comme disait Chenu, c'est ça. On ne fait pas d'enfant parce qu'on n'y croit plus. En fait, en gros, c'est quand même ça. On peut pas en sortir. Donc je pense qu'il n'y a plus aujourd'hui, pour prendre conscience de cela, enfin, ce sont des artistes qui peuvent le dire. Des artistes comme les hommes de théâtre, mais des romanciers aussi. Houellebecq, à sa manière, sur d'autres terrains, dit des choses de cette nature. Mais c'est pas dans l'enceinte politique qu'on peut le dire. Et les élites intellectuelles et morales sont un peu... Enfin, il n'existe plus beaucoup qui prennent la parole ou qui ont la stature pour le dire de manière suffisamment forte. Je pense que ça ne peut venir que de gens inspirés, au fond, dans le domaine de l'art. Moi, je ne suis pas surpris de voir ressurgir ça. Et je trouve que ça revient au bon moment. Il est temps de le dire, sachant que la politique et la géostratégie ont toujours été une question démographique. Enfin, et j'ai relu il n'y a pas longtemps un texte de Jérôme Lejeune de 1977, donc c'était quelques années après l'avortement. Il notait déjà qu'il y avait beaucoup d'avortements fondés sur le sexe en Chine. Il écrivait déjà qu'à la suite de ces avortements forcés de filles en Chine, il y aurait un déséquilibre des sexes dans la population et que ça pouvait entraîner des déséquilibres géostratégiques. Et les peuples se sont fait la guerre parce qu'il manquait de femmes. Enfin, ça, dans l'histoire de l'Antiquité, c'est tout à fait clair. Et aujourd'hui, les déséquilibres démographiques en Chine ou en Inde sont des centaines de millions de personnes. Donc ça va falloir le payer un jour ou l'autre. Et je suis très étonné de voir que Lejeune écrivait ça en 77. On a pris conscience de la question quand Le Monde, un jour, a fait un article sur le déséquilibre. Ils étaient horrifiés par l'avortement sur le fondement du sexe. Et ils ont fait toute une campagne qui était formidable, d'ailleurs, qui était très, très bien, mais qui n'était justifiée que parce que c'était l'avortement des petites filles. Voilà. Mais c'est pas l'avortement en soi, c'était l'avortement des filles. Mais on en a parlé 40 ans plus tard.
Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde, oui.
Merci beaucoup. Je m'appelle Karine Scoupienne, je suis mère d'une jeune fille polyhandicapée de 20 ans. Donc, c'est un handicap beaucoup plus grave que la trisomie. D'abord, je voudrais apporter quand même un peu d'espérance dans ce que vous venez de dire. Vous avez dressé un portrait assez sombre de la situation. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui s'engagent pour le bien-être des personnes handicapées. Et puis, j'ai eu l'occasion de voir personnellement vraiment un énorme élan d'amour et une très grande attention autour de ces personnes. Donc, il y a quand même une certaine espérance à avoir. Ceci dit, je voudrais vous poser une question par rapport à une campagne qui va démarrer ici bientôt. Au mois de juin, la Suisse va devoir se prononcer sur un changement de la Constitution pour introduire le diagnostic préimplantatoire qui est encore interdit en Suisse. Bon, évidemment, le combat est perdu d'avance, mais j'aimerais quand même vous demander quelques conseils dans les arguments que nous pouvons opposer au diagnostic préimplantatoire. Dans les discussions que j'ai autour de moi, dans les différents milieux que je fréquente, il y a des arguments faciles à réfuter. Par exemple, la charge pour les parents. Bon, ça, je suis bien placée pour dire qu'on reçoit beaucoup plus qu'on donne. La charge pour la société, je réponds toujours en invoquant le préambule de la Constitution suisse qui dit que la force d'une société se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Par contre, j'ai de la peine avec un argument, c'est celui de la souffrance des enfants. Il m'arrive de sortir avec ma fille parce que je dois l'amener quelque part, elle est en train de convulser, elle n'arrive plus à respirer. Objectivement, elle souffre et c'est très dur. Et là, quand je vois les gens qui me disent « Oh là là, c'est mal fait », j'entends dire « Vous auriez mieux fait de ne pas la laisser vivre ». Qu'est-ce qu'il faut répondre dans ces cas-là? Merci.
Merci pour votre témoignage. Sur la question purement intellectuelle des arguments contre le diagnostic préimplantatoire, je ne saurais mieux vous conseiller que de lire quelques passages, quelques livres de Jacques Testard, qui est un biologiste que vous avez dû connaître, dont le nom ne vous est pas inconnu, puisque c'est lui qui a donné naissance avec Friedman en France à la première petite fille, Amandine, née par fécondation in vitro il y a 30 ans. Et Jacques Testard lui a pris ses distances et il a dit « J'arrête, c'est pas possible, on va dans le mur, j'arrête ». Et il développe des arguments extrêmement intéressants, très justes sur le plan humain, sur le plan anthropologique, alors qu'il n'est pas du tout catholique et qu'il est même plutôt bouffeur du curé, mais il en devient sympathique. Franchement, quand on voit la qualité des arguments qui sort, moi je l'ai rencontré plusieurs fois, je le trouve éminemment sympathique, il a des arguments qui sont vraiment de fond. Sur le diagnostic préimplantatoire, son argument, et moi j'en ai discuté vraiment sur le fond avec lui, est assez fort. Moi je comparais avec le diagnostic prénatal, moi je suis plutôt sur le diagnostic prénatal, parce que la trisomie c'est du prénatal, c'est pas du préimplantatoire. Et lui me disait, je vois l'eugénisme dans le DPN, lui me disait, l'eugénisme, il est encore plus dans le DPI que dans le DPN. Parce que dans le DPN, et j'ai eu du mal à comprendre son argument, mais je pense qu'il avait raison, il disait finalement dans le DPN, l'avortement, est terrible de dire ça, est une forme de régulation finalement de l'eugénisme. Parce que l'avortement, qu'on y soit pour ou qu'on soit contre, de toute manière, c'est jamais une partie de plaisir. Bon, et avorter, même pour donner naissance à un enfant trisomique, ou pour ne pas donner naissance à un enfant trisomique, ça reste un drame pour la personne qui a recours. Bon, même si c'est pas conseillé, n'est-ce pas? Mais ça reste un drame. Donc il disait, il y a une certaine forme de régulation par l'avortement qui est un acte dramatique, qui est douloureux pour la femme, alors que dans le DPI, il n'y a pas ça. Il n'y a même plus ça. Le DPI, c'est quoi? C'est un monsieur qui arrive le matin avec sa canne et son chapeau et à qui on dit « tu vas faire du tri d'embryons chez le couple X ou Y ou Z ». Et puis il arrive le matin, il se met à 9h30 à son boulot, il trie les embryons, ah, celui-là n'est pas bon, celui-là est bon, je classe A, B, C, D. Voilà, les A, on les garde, les B, on regarde, les C, on les met de côté, les D, on les détruit. Et puis à 5h, il prend sa canne et son chapeau et il s'en va. Donc là, on est dans l'eugénisme avec l'intrusion d'un tiers, et la femme ne sera jamais, elle ne souffrira pas de ça. Par définition, elle n'avorte pas. On va lui réimplanter simplement un embryon qui sera épargné par la maladie dont, par ailleurs, la fratrie a été malheureusement touchée. C'est ça, en fait, c'est pouvoir donner l'argument, c'est de dire pouvoir donner un enfant en bonne santé à une famille qui en a été privée. Donc ça de ce point de vue, l'argument logique est très fort et très bien développé chez Jacques Testard. Après ça, pour répondre sur le plan humain à votre question, parce que je peux difficilement, ça m'est impossible de répondre à votre question. Vous savez-vous, parce que vous aimez votre enfant, parce que vous la connaissez, parce que vous la voyez vivre, que sa vie est diminuée aux yeux du monde, mais que c'est sa vie. Et que c'est sa vie qu'elle l'a remplie avec l'amour que vous lui donnez, ou que lui donne le reste de sa famille ou tes amis. Et qu'elle a peut-être une petite capacité. Mais ça, elle est remplie, sa capacité. Elle peut être remplie, sa capacité. De ce point de vue-là, c'est Anne Dauphine Julien qui a écrit un très beau livre, que vous avez lu probablement, Les petits pas sur le sable mouillé, qui montre à quel point cette petite fille qui est morte très tôt, au fond, on lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette pauvre petite vie de rien du tout, vous n'auriez pas dû la garder parce qu'elle a eu une deuxième enfant porteur de la même maladie. Mais elle dit, mais c'était sa vie. Mais sa vie était remplie, elle était remplie d'amour à ras-bord. Et quand vous remplissez un dé à ras-bord, un dé à coudre, il est autant rempli qu'un seau ou qu'un tonneau. Simplement, c'est une petite vie qui a besoin de tout ça, et il a eu tout ça. Et je pense que dans la vie d'une personne handicapée, polyhandicapée, elle peut être autant remplie qu'une autre, ce qui n'exclut pas la souffrance, à laquelle, par ailleurs, la médecine, comme vous le dites très bien, permet d'apporter aussi, et de plus en plus, quand même des solutions s'agissant de la douleur. Voilà. Le regard de l'autre, ça c'est un autre travail, parce que c'est le regard de l'autre qui est le plus blessant dans cette affaire aussi. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais voilà, c'est que la réponse que je pourrais faire à votre deuxième aspect aussi.
Si je peux ajouter quelque chose, d'abord sur le TPI, il y a un problème qui est un peu celui déjà de la PMA qui implique la production d'embryons surnuméraires et qui fait qu'on est dans des situations, à partir du moment où on a autorisé des choses qui étaient fausses, on est dans des situations qui impliquent la perplexité. C'est une catégorie morale très intéressante, c'est-à-dire qu'on ne sait plus choisir. Qu'est-ce qu'on va faire avec les embryons surnuméraires, congelés? On sait bien que si on les laisse, on débranche, c'est des morts. Hein, mais est-ce qu'on va demander à ce qu'ils soient implantés et on aura des jeunes chrétiennes qui, au lieu d'être dévorées par les lions, livreront leur utérus justement à la naissance d'un... Mais là aussi, ce serait un problème parce que, vous voyez, on cautionnerait cette manière de faire qui est technique. Donc en fait, on est perplexe. Et moi, je dis sur le diagnostic préimplantatoire, à partir du moment où on décide de fabriquer hors de l'utérus quelque chose, il est logique qu'on soit dans la logique de la fabrication, c'est-à-dire du zéro défaut. Et donc, d'une certaine façon, le diagnostic préimplantatoire est parfaitement cohérent avec la logique de la PMA. Et c'est ça le problème. C'est que c'est cohérent. Dès qu'on passe de la naissance à la fabrication, eh bien, on cherche le zéro défaut. Et le diagnostic préimplantatoire, c'est très difficile de lutter contre parce qu'on est déjà passé du côté de la logique de la fabrication. Ça, c'est le premier point. Sur la souffrance... C'est ce qu'on voyait justement dans Massacre des Innocents. Il y a une femme, enfin on le laisse entendre, mais d'une certaine façon, qu'aurait dit, je pense à ces personnes que vous voyez, qui vous font des remarques ou des reproches, mais qu'est-ce qu'on aurait dit à la Vierge Marie lorsque son fils était crucifié? On aurait dit, non mais tu vois là, ce truc-là, là, non, c'était pas la peine. On lui aurait proposé, sachant, et elle à la limite, elle le savait d'une certaine façon, elle avait entendu les chants du serviteur souffrant, on lui aurait proposé d'avorter, évidemment, à la Vierge Marie. La première chose qu'on lui aurait proposé, avec la plus grande compassion possible. L'enfant polyhandicapé, plus que nous qui sommes de brillants argumentateurs, c'est celui qui résiste à la société de la performance. Et il parle dans la chair du Christ.
Il y a une force, de la personne handicapée. Lorsque la personne handicapée, gravement handicapée, regarde le regardeur ou celui qui critique, il y a dans le regard de la personne handicapée quelque chose de très fort et qui tente à faire considérer à celui qui est en train de faire la critique, il se sent agressé parce que finalement il voit une humanité là qu'il n'a plus lui dans son cœur. En fait l'humanité, c'est ça, en fait il y a un jeu d'acteurs entre le regardeur et le regardé, et au fond le regardeur juge la vulnérabilité du regardé en disant quelle misère. Mais il ne voit pas que lui, c'est son cœur qui est misérable. Et que lui, il a perdu l'humanité. Et dans le regard du regardé sur le regardeur, lorsque le regardé a l'audace de regarder le regardeur, finalement, son regard est aussi un regard terrible pour le regardeur. Parce qu'il se dit, mais finalement, lui, il est plus humain que moi. Et c'est pour ça que ceux qui font ces critiques sont souvent des gens qui le font parce qu'il y a une mauvaise conscience chez eux, et il y a quelque chose qui est blessé chez eux. Et la situation de la personne handicapée est difficile à cet égard, parce que son regard est pratiquement un jugement. Et ça, c'est indépendamment de la douleur physique. Mais c'est vrai qu'il y a ce jeu terrible de celui qui est faible, dans une situation de vulnérabilité, et qui regarde celui qui porte un regard critique, mais celui qui a un regard critique est écrasé, finalement, par le regard d'humanité de la personne blessée. C'est très difficile à jouer. C'était ce qui s'est passé dans le cas du CSA. Voilà, il y a des gens qui ne supportent pas de voir des personnes très handicapées heureuses. Mais oui, mais ça fait partie de leur mission. Et un simple regard peut changer le regard du regardeur.
Dernière question, parce que l'heure tourne. Il nous reste 5-10 minutes. Merci.
Marie. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre discours. Je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'on peut raisonnablement défendre l'embryon si on ne peut pas encore dire que c'est une personne avec toute la dignité que nous, avec la vision chrétienne qu'on a de la personne, ça a, et même si n'a pas cette vision-là de pouvoir dire qu'il y a un fondement qui dépasse l'être visible qu'on voit.
Oui, c'est toute la question, évidemment, de l'être humain et de la personne. On a joué la personne contre l'être humain. Et on a dit, oui, ce sont des êtres humains, mais ce ne sont pas des personnes, ce sont des personnes potentielles. Alors, ça, ce sont évidemment des manœuvres dilatoires. Jean Lejeune avait une façon très rapide de régler les questions. Il disait, est-ce que vous connaissez des êtres humains qui ne sont pas des personnes ? Est-ce que vous connaissez des êtres humains qui ne sont pas des personnes ? Est-ce que vous en connaissez, vous, par exemple ? Des exemples d'êtres humains qui ne sont pas des personnes. Dans l'histoire, il y en a eu, malheureusement, mais ce ne sont pas des exemples qui mériteraient d'être repris. Il y a des êtres humains qu'on a considérés pas comme des personnes. Il y a eu des esclaves, il y a eu des prisonniers dans des camps de concentration. Oui, c'est ça qu'on a fait dans l'histoire, quand on a découplé l'être humain de la personne. Est-ce qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas des personnes ? Un être humain qui est mort, oui, peut-être, mais l'embryon, il est vivant. Donc la personnalité, ça a été un jeu, ça. C'est, bon, mais on, alors on peut pas démontrer la personne. Voilà, c'est pas du même nature. Il y a une certitude absolue sur l'humanité de l'embryon. Après ça, le fait de lui décerner le qualificatif de personne ou pas n'est qu'un argument sémantique pour mettre l'embryon hors champ de protection de la vie.
Il se peut même que ce soit on se soit piégé en allant sur ce débat, parce qu'en plus, il y a une équivoque sur le terme de personne, juridiquement, métaphysiquement,
oui,
etc.
Oui, oui.
En fait, et comme tu l'as très bien suggéré, comme on disait au début, finalement, le fond, c'est qu'est-ce qui vous pousse à donner la vie ? La question, elle est beaucoup plus profonde que ça. Et c'est ça ce que nous avons perdu dans des sociétés de consommation où ce qu'on fait, c'est acheter pour se divertir, devant notre angoisse de la mort, devant notre angoisse d'une absence totale d'espérance. Et donc, la question, elle est plus en amont même. C'est-à-dire, pourquoi il faudrait plus radical ? Pourquoi retourner l'attaque ? Pourquoi est-ce que vous avez donné la vie ? Même à un enfant, parce qu'il va souffrir de toute façon. Il va nourrir les vers, il va finir en poussière, il va servir d'engrais, on ne sait pas. Bon, pourquoi ? Ah, je pense que c'est presque plus cela. Et si on retrouve cette espérance à ce moment-là, les choses se dénouent beaucoup plus profondément. Comme tu le disais, ce n'est pas une question politique, c'est une question beaucoup plus profonde. Merci Jean-Marie, c'était une joie de t'accueillir. Alors je voudrais juste vous dire une chose, parce que j'ai découvert, il l'a découvert lui-même, qu'il faisait partie du comité de parrainage de Philanthropos depuis le début.
Non, je n'ai pas découvert, j'avais juste oublié.
Et voilà, et bien je peux dire aujourd'hui que nous sommes très fiers de t'avoir comme parrain. Merci.